Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. La saison des pluies de retour à Kinshasa, avec elle, inondations et désolations dans plusieurs quartiers. Téné, il a plu sur la ville presque toute cette semaine. Dans ce journal, nous serons au quartier Ndanou, dans la commune de Limété, et sur la route Kimwenza, dans la commune de Mongafula. Mieux lutter contre la circulation illicite des armes dans l'est de la RDC. La MONUSCO vient de former dans ce sens 25 agents de la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre. Formation dispensée à Beni et clôturée hier. Au moins 225 agents de l'État seront formés d'ici décembre, indiquent les organisateurs. Et puis, affaire Roger Lumbala, homme politique congolais et ancien chef rebelle. Son procès s'est ouvert cette semaine devant la cour d'assises de Paris. Il est poursuivi pour complicité présumée de crimes contre l'humanité commis au nord-est de la RDC. Pour en parler, nous recevons Maître Chibangu Kalala, l'un des avocats de Roger Lumbala. Madame, Messieurs, bonjour. La saison des pluies de retour à Kinshasa, les inondations aussi, ont repris des plus belles dans certains quartiers voisins des cours d'eau. C'est le cas du quartier Ndanou dans la commune de Limété. Les eaux stagnent sur place sans voie d'évacuation. Elles envahissent maisons, parcelles et rues, mettant en difficulté les habitants de cette partie de la capitale. Constat de nos reporters qui sont descendus dans ce quartier. Suivez ce reportage de Lukin Zao et Rachel Kalombe.
À notre passage, des flaques d'eau sont visibles sur certaines rues. Les différentes pluies qui se sont succédées cette semaine. Des routes boueuses sont presque impraticables. Mais la situation est plus grave sur l'avenue Mukamaile. Ici, des parcelles et des maisons remplies d'eau sont abandonnées. Pour cet habitant, le manque de canalisation en est la cause principale.
Dans ce quartier, dès qu'il pleut, il y a toujours des dégâts. La pluie dernière, il y a eu beaucoup de dévastations. L'eau avait envahi nos maisons. Comme on n'a pas de canalisation, cela cause beaucoup d'inondations.
Avec les inondations à répétition, des familles disent n'avoir plus rien de précieux à sauver à part leur propre vie. En cas de pluie, les toits des maisons sont leur refuge. Cette dame explique leur calvaire. Pour elle, la montée du sable de la rivière Ndjili est aussi une des causes de cette situation.
Nous sommes parmi les victimes. Nous sommes à Mukamaile. L'eau déborde jusqu'à envahir nos maisons. Nos lits mouillés et on se pose sur nos toits le temps que l'eau s'évacue. Seul et on n'a aucune assistance de l'État congolais.
Ces habitants espèrent un secours rapide de la part des autorités.
Par ailleurs, la pluie qui s'est abattue hier vendredi matin sur Kinshasa a provoqué l'effondrement d'environ 20 mètres de la chaussée de Kimwenza dans la commune de Mongafula, coupant la route en deux et menaçant plusieurs maisons d'habitation d'effondrement. La population de ce coin de la capitale a du mal à se déplacer car tous les moyens de transport y broussent chemin. Ici également, la population demande l'intervention des autorités compétentes. Parlons santé à présent. Clôture ce samedi de la campagne de riposte rapide contre la poliomyélite dans la province du Maniema, lancée par le ministre provincial de la Santé le mercredi 12 novembre à Lubao, dans la zone de santé de Samba. Cette campagne a visé plus de 30 000 enfants de moins de 5 ans. Le médecin chef de cette zone de santé lance un appel pressant à tous les parents ayant des enfants cibles à accepter de faire vacciner leurs enfants pour les protéger contre la polio. Docteur Haruna Ouseni s'exprime au micro de Florence Kizalunga.
Il était très sensé de lancer à Lubao car c'est là où existe le cas index. Et cela pouvait aider à édifier les autres parents qui hésitent jusque-là à faire vacciner leurs enfants. Et surtout les persuader à adhérer à la riposte rapide pour la vaccination de leurs enfants et surtout pour préserver la santé de la communauté. Si on fait la symbiose de deux vaccins, c'est juste pour chercher la synergie afin qu'on soit rassuré que franchement, on a lutté contre toutes les trois souches. Donc Samba vit déjà avec un ennemi. L'ennemi, c'est le virus, c'est la poliomyélite. Et il fallait absolument qu'on cherche les voies et moyens pour bouter dehors ce virus-là. Et c'est pourquoi on parle de riposte rapide. Aux parents qui ne puissent pas confondre la poliomyélite avec une maladie due à la sorcellerie. Puisque quand nous sommes arrivés sur terrain, nous nous sommes rendus compte que l'enfant traînait encore chez le féticheur. Il n'y a pas un autre traitement. Donc nous pouvons protéger nos enfants contre la poliomyélite en acceptant la vaccination.
La journée mondiale de lutte contre le diabète, c'était hier 14 novembre. En RDC, le programme national parle d'une prévalence de 8% et la tendance est à la hausse d'après ses animateurs. Le thème national de cette célébration, diabète et bien-être, mieux vivre avec le diabète. En dehors des facteurs non évitables comme l'hérédité par exemple, comment éviter le diabète et comment bien vivre avec pour ceux qui en souffrent déjà. Docteur Louise Anyangé, directrice adjointe du programme national de lutte contre le diabète, répond au micro de Babel Mpongo Massimango.
Nous agissons plus au niveau des facteurs favorisants. Nous éduquons sur une alimentation saine et équilibrée, sur un mode de vie sain. Alcool, consommation responsable, ne pas fumer, manger moins gras, moins sucré, moins salé, boire suffisamment de l'eau et avoir un exercice physique régulier. Savoir gérer le stress. Pour les personnes vivant avec le diabète, il y a d'abord une prise en charge qui doit être correcte pour mieux vivre avec la maladie sans développer rapidement les complications. Même s'il y a des complications développées, arrêter la progression des complications. Le programme national de lutte contre le diabète, à travers la sensibilisation, les normes et les directives, la formation des personnels soignants, on voudrait que les personnes vivant avec le diabète vivent mieux. Parce que, à part le fait que la personne doit se prendre en charge et avoir une bonne surveillance, nous insistons aussi sur son entourage. Parce que c'est aussi une maladie qui nécessite un accompagnement social. Il y a des formations aussi destinées à l'ensemble de la population pour accompagner ces personnes à ne pas se décourager dans le suivi de leur maladie et leur permettre de mieux vivre avec la maladie et l'autant possible.
Autre nouvelle, je vous le disais en titre, la MONUSCO a clôturé hier vendredi à Beni au Nord Kivu une formation de 25 agents de la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petits calibres et de réduction de la violence armée. Objectif de cette formation, mieux lutter contre la circulation illicite des armes dans l'est de la RDC. Organisée pendant 3 jours par la cellule de contrôle des armes et la police de la MONUSCO, cette formation visait à renforcer les capacités des participants en matière de traçabilité des armes dans une région où circulent des nombreuses armes légères et de petit calibre. Détail avec Martial Papimukeba.
La formation a porté sur l'identification des armes légères et des petits calibres, la traçabilité opérationnelle, l'analyse des munitions et matériel connexe, les techniques de suivi ainsi que les procédures de collecte et d'enregistrement conformément aux standards internationaux. Elsie Kabuyaya, l'une des participants, souligne l'importance de cette formation pour leur travail.
Auparavant, nous prenions les armes sans savoir les mesures de sécurité, mais après la formation, on connaît déjà tout toutes les étapes pour faire un bon traçage de l'arme. Le traçage de l'arme nous aide à identifier l'arme depuis son pays d'origine jusqu'au dernier utilisateur.
Job Kambalizaabu, secrétaire provincial de la CNCALPC au Nord Kivu, annonce le déploiement des agents formés sur le terrain.
Les armes circulent illicitement à l'est de la République surtout. Il y a beaucoup de groupes armés. Nous devons avoir des gens bien formés qui vont bien tracer les armes. On va les déployer sur terrain pour qu'ils puissent être en face d'une arme et connaître les parties d'une arme parce que les trafiquants des armes peuvent trafiquer les armes moyennant des pièces.
Au moins 225 agents de l'État seront formés d'ici décembre. Béni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Par ailleurs, encore des cas de meurtres commis par les Wazalendo sur des civils dans les territoires de Kabambare et de Kasongo dans le Maniema. La panique s'installe dans le territoire voisin de Shabunda au sud Kivu où les groupes armés du Maniema pilulent et y commettent des mêmes dégâts. Il y a quelques jours, un commerçant ambulant avait été assassiné par un seigneur de guerre du groupe Mai Mai Malaika, Jean Kassami, et nous en dit plus.
Ces cas de meurtres à répétition dans les territoires de Kabambare et Kasongo au Maniema affectent directement la sécurité des personnes et de leurs biens dans les territoires voisins de Shabunda au sud Kivu. L'administrateur du territoire de Kabambare sollicite des actions combinées pour arrêter ces abus commis impunément par le Mai Mai qui se sont mués en Wazalendo.
Vraiment, nous sommes tellement inquiets du comportement de nos frères Mai Mai, appelés autrement Wazalendo, de la façon dont ils sont en train d'exterminer les gens.
Et ça doit être le 68e cas qu'on tue comme ça, dans 3 mois.
La nuit d'avant-hier, on a vu le Mai Mai venir arrêter un géant là. Heureusement, il était aussi souple. Celui-là va sauter sur le Mai Mai et ravir l'arme. En faisant ces mouvements, on va tuer un innocent. Nous condamnons fermement le comportement de nos frères Ouazalendo qui tuent les gens sans pitié, qu'est le niveau national, qu'est provincial, pense aussi au territoire de Kabambare pour qu'on ait un peu la paix.
Ces cas de meurtres à répétition surviennent dans un contexte où les FARDC et les Ouazalendo défendent collégialement l'agression de la RDC. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, le président du comité de soutien à Lumbala et l'avocat conseil de Roger Lumbala ont tenu une conférence de presse conjointe hier vendredi à Kinshasa. Moïse Monidela et Maïté Landry Pongo ont tenu à éclairer les chevaliers de la plume sur l'évolution du procès qui s'est ouvert le 12 novembre devant la cour d'assises de Paris. Ils ont démontré que dans la forme de cette cour, la cour n'a pas la capacité de juger Roger Lumbala qui est poursuivi pour complicité présumée de crimes contre l'humanité commis entre juillet 2002 et décembre 2003 dans les provinces de l'Ituri et du Haut-Uele au nord-est de la République démocratique du Congo. Compte rendu de Richard Junior Kamunga.
Pour Maître Landry Pongo, ce procès est mené au nom du principe de compétence universelle qui permet à un État de juger les auteurs présumés de crimes graves, indépendamment du lieu où ils ont été commis. Dans la forme, la Cour d'assises de Paris n'a pas le droit de juger Roger Lumbala, surtout que le gouvernement congolais a déjà formulé à deux reprises la demande d'extradition.
C'est-à-dire, on avait déjà ici en République démocratique du Congo l'ouverture d'un dossier judiciaire contre M. Roger Lumbala. Deux, la République démocratique du Congo a introduit, sans succès malheureusement, deux demandes d'extradition. Les deux conditions sous-allusionnées étant respectées, il ne restait plus qu'à la France de pouvoir extrader M. Roger Lumbala pour le voir jugé devant un juge compétent de la République démocratique du Congo.
Pour Moïse Monidela, président du comité de soutien à Roger Lumbala, il n'est pas admissible qu'un Congolais soit jugé en France.
On dit que nous sommes indépendants et nous sommes incapables de juger nos propres citoyens pour les faits commis au Congo. C'était l'indépendance. Donc ici, ce n'est pas Roger Lumbala qu'on va juger. On va juger la République démocratique du Congo.
Roger Lumbala, âgé de 67 ans, a été arrêté à Paris le 29 décembre 2020 et incarcéré depuis janvier 2021 à la prison de la Santé.
Actualité internationale. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté hier une résolution ordonnant à la mission indépendante d'établissement des faits de l'ONU sur le Soudan de mener l'enquête sur la situation des droits humains dans la ville d'El Fasher aux mains des paramilitaires des forces de soutien rapide. À l'issue d'une session extraordinaire, une mission d'enquête a été chargée d'identifier tous les responsables des violations présumées du droit international à El Fasher afin qu'ils soient traduits en justice. En ouverture de cette session réclamée par le Royaume-Uni conjointement avec l'Allemagne, l'Irlande, les Pays-Bas et la Norvège, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a dénoncé l'inaction de la communauté internationale et prévenu les auteurs d'exactions qu'ils devraient rendre des comptes. La Côte d'Ivoire déclare avoir renforcé la sécurité le long de la frontière qu'elle partage avec le Mali au nord, ce en réponse à un afflux inhabituel des réfugiés. Ces déplacements semblent liés aux attaques menées par des groupes armés contre des civils au Mali, pays en proie à une insurrection djihadiste. Le Conseil national de sécurité de la Côte d'Ivoire a donné cette instruction aux responsables militaires après une réunion jeudi, ajoutant que les autorités ivoiriennes s'efforçaient d'enregistrer les demandeurs d'asile.
L'invité.
Vous le savez, il s'est ouvert mercredi 12 novembre le procès de Roger Lumbala, homme politique congolais et ancien chef de guerre à la tête du Rassemblement congolais pour la démocratie nationale, RCDN, ce devant la cour d'assises de Paris. Il est poursuivi pour complicité présumée de crimes contre l'humanité commis entre juillet 2002 et décembre 2003 dans les provinces de l'Ituri et du Haut-Uele au nord-est de la RDC. Ce procès est mené au nom du principe de compétence universelle qui permet à un état de juger les auteurs présumés de crimes graves, indépendamment du lieu où ils ont été commis. Pour en parler, nous recevons l'un des avocats de Roger Lumbala, Maître Tshibangu Kalala, s'entretient avec Alain Rongmoshinj.
Maître Tshibangu Kalala, bonjour. D'après vous, quels sont les enjeux du procès Roger Lumbala?
Bonjour Alain. Pour moi, les enjeux de ce procès se présentent de la manière suivante. L'enjeu le plus important, c'est l'acquittement ou la condamnation de notre client, Roger Lumbala. Deuxième enjeu, c'est la lutte contre l'impunité. Ce procès est considéré par les ONG et l'opinion publique nationale et même internationale, savoir si on peut, après plusieurs années, punir le crime contre l'humanité, qui est considérée comme un crime international imprescriptible. Troisième enjeu, c'est la question de la primauté des juridictions pénales de notre pays, de la RDC, dans ce procès, parce que la compétence des juridictions françaises est une compétence subsidiaire. Et la RDC a demandé à la France d'extrader M. Lumbala au Congo pour qu'il soit jugé. C'est ce que la France n'a pas fait. Donc, c'est un enjeu important. Quatrième enjeu, c'est l'enjeu des preuves. Les faits se sont déroulés il y a plus de 20 ans. Le parquet français qui a mené des enquêtes n'a pas envoyé un magistrat français au Congo pour venir mener les enquêtes sur le terrain, en Ituri et dans le Haut-Uele, pour voir les réalités de terrain, parler avec tout le monde pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Non, le parquet français s'est contenté de rapports des ONG, 20 ans après les faits, s'est contenté de quelques témoins recrutés par des ONG. S'agissant toujours des preuves, Roger Lumbala est en prison depuis 5 ans. Il n'a pas l'argent. Il ne sait pas prendre en charge ses propres témoins pour les amener jusqu'à Paris, pour qu'ils viennent expliquer ce qui s'est passé. Il y a un jeu des preuves qui se pose très sérieusement dans ce procès, et c'est l'une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, nous allons revenir, Lumbala a récusé la justice française, en estimant que cette justice n'est pas compétente pour le juger.
Selon vous, maître, pourquoi la justice française a refusé la demande d'extradition formulée par la RDC?
En ce qui concerne le refus de la France d'extrader M. Lumbala au Congo pour qu'il soit jugé, la France, la justice française en particulier, avance deux raisons. La première raison est que le gouvernement congolais aurait demandé l'extradition de M. Lumbala vers le Congo en retard. D'après la loi française, il fallait introduire cette demande d'extradition avant le lancement des poursuites pénales contre M. Lumbala. Or, le gouvernement congolais a demandé l'extradition de M. Lumbala très tardivement après que la justice française ait lancé les poursuites pénales contre M. Lumbala. Deuxième raison, le ministère public, donc le parquet français, prétend que si on renvoie Lumbala au Congo pour y être jugé, Lumbala va jouir de l'impunité parce qu'il a des relations dans les hautes sphères du pouvoir à Kinshasa. Il sera protégé, il ne sera pas poursuivi. Et donc, il ne faut pas l'extrader vers le Congo. Et les partis civils, les ONG qui sont derrière cette procédure, ont insisté devant la Cour.
Pourquoi Roger Lumbala a-t-il récusé la justice française ainsi que ses avocats dès la première audience? Et quelles pourraient en être les conséquences?
La récusation qui a été défendue par M. Lumbala devant la Cour, en récusant ses avocats, il faut savoir que dans un procès pénal, comme tout procès, il y a la stratégie et la tactique. La stratégie définie par les avocats, compris moi-même, c'est d'obtenir l'acquittement total de M. Lumbala. Mais pour atteindre cet objectif global, ultime, qu'on appelle stratégie, il y a la tactique, il y a les procédés, il y a les moyens qu'il faut mettre en jeu, les procédés pour atteindre cet objectif. Il faut décrédibiliser complètement la justice française, montrer que la France est illégitime pour pouvoir juger M. Lumbala. Maintenant, il y a des conséquences. C'est la Cour d'appel de Paris qui va tirer les conséquences de cette récusation. Peut-être que Lumbala pourra demain changer d'avis. Les conséquences, c'est de désigner un avocat d'office pour défendre M. Lumbala. Mais cette désignation a des conséquences parce que si on prend un avocat aujourd'hui, cet avocat doit étudier le dossier qui comporte plus de 2000 pages, 2000 documents à lire. Ça va retarder le procès. C'est une conséquence. La Cour d'appel pourrait désigner un avocat d'office parmi les quatre avocats actuels. Mais ça pose encore des problèmes. Mais ça, c'est à la Cour d'appel de décider de la démarche à suivre. Que la récusation est justifiée aussi par le fait que M. Lumbala a demandé la comparution de certains témoins qui devaient être là. Mais ces témoins n'ont pas comparu.
Maître Tshibangu Kalala, je vous remercie.
C'était là l'un des avocats de Roger Lumbala qui s'entretenait avec Alain Rumushige. Notez que Radio Kapi va prochainement vous présenter la réaction des ONG de défense des droits de l'homme dans le procès Roger Lumbala. Par ici prend fin ce journal coordonné par Jude Mister Bilanda, Pierre Diassino à la mise en onde. Merci de rester branché sur la fréquence de la paix.